VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
18h, temps universel dans 10 minutes, Sahel Plus avec Léo Morin-Gibourg, mais tout d'abord le journal. Gabon, une délégation de chefs d'État de l'Union africaine est attendue d'ici demain jeudi à Libreville pour tenter de désamorcer la crise causée par la décision de l'opposition sous la houlette de Jean Ping de contester la réélection du président sortant Ali Bongo Ondimba à la récente présidentielle et de réclamer un recomptage des voix. Pour sa part, le chef de l'État gabonais a contre-attaqué aujourd'hui. Il affirme haut et fort que la saisie de la Cour constitutionnelle est l'unique solution envisageable de sortie de crise. À la veille de la date limite des recours devant une institution décriée par son rival Jean Ping. Ali Bongo Ondimba s'en prend aussi aux observateurs de l'Union européenne qui ont fait état mardi d'une anomalie évidente dans les résultats électoraux. Monsieur Bongo estime que certains d'entre eux ont outrepassé leur mission, Idrissa Sédoudia.
J'aurais aussi apprécié qu'on relève quelques anomalies dans le fief de M. Ping. Si on veut relever les anomalies, il faut être clair, équilibré et relever toutes les anomalies si on en a constaté, a commenté M. Bongo sur la radio française RTL en accusant Jean Ping de fraude massive. La mission de l'Union européenne a affirmé mardi avoir décelé des anomalies dans la province gabonaise du Haut-Ogooué, fief ethnique du président Bongo, où il a obtenu plus de 95% des suffrages permettant au président sortant d'être réélu d'une courte tête, 5594 voix d'avance. Alors que l'opposition et aussi la France, ancienne puissance coloniale, réclame un recomptage des résultats, M. Bongo a de nouveau invité son rival Jean Ping à se tourner vers la Cour constitutionnelle conformément à la loi électorale gabonaise. L'Union africaine s'est dite prête à envoyer une délégation au Gabon pour tenter une médiation. Les violences post-électorales ont fait 3 morts d'après un bilan officiel. L'AFP a recensé pour sa part 7 morts, dont un policier. Selon l'opposant Jean Ping, qui revendique la victoire à la présidentielle, la crise aurait fait 50 à 100 morts.
Au Tchad, l'arrestation de militaires après le scrutin présidentiel du 10 avril 2016 continue de défrayer la chronique. Arrêté et séquestré à la présidence pendant 3 mois et demi, le responsable de la coordination de transmission de la défense délégué à la présidence de la République vient d'être libéré sans autre forme de procès. Nous signale notre correspondant à N'Djamena, André Kodmajinga.
Commandant Manayel Najita a été arrêté le 10 mai dernier à la veille de son évacuation sanitaire sur instruction du directeur des renseignements militaires. On lui reproche de s'infiltrer dans le cortège présidentiel, trouble à l'ordre public et espionnage à la solde des candidats malheureux à la dernière élection présidentielle. Victime d'un accident cardiovasculaire, il n'a reçu aucune visite ni de son médecin traitant, ni de sa famille durant toute la période de sa détention. Libéré le 30 août 2016, sans une forme de procès, il respire difficilement et évite tout contact selon son entourage. Le président du Cap Sûr, Joseph Dimrangar Dadnadji, se dit surpris des motifs évoqués pour arrêter le commandant Manayel Najita.
Manayel, c'est un parent spirituel. Il fait ce travail sous la crainte de Dieu. Nous savons que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. Si Dieu décide aujourd'hui que ça s'arrête, aucune force dans ce monde ne peut l'empêcher. Nous avons cette conviction-là. Donc, pourquoi aller rester dans des groupes fomentés dessus? Non, ça relève des entreprises sataniques. Nous, on n'est pas dedans. Les gens qui font des coups d'État sont des gens faibles. Lui étant des transmissions, c'est un gars qui devait être plutôt décoré. Il est militaire. Les gens, il faut le mettre dans le dossier des militaires d'histoire. Et il est libéré en même temps que le procureur qui dit « Je ne poursuis plus ».
Pour le président d'honneur de la Ligue tchadienne des droits de l'homme et représentant de la FIDH auprès de la CEMAC d'Obiang Assingar, le cas de ce commandant ne sera pas resté impuni.
C'est un cas que nous avons enregistré et qui fait partie des dossiers que nous gérons. Ils l'ont gardé pendant 3 mois, séquestré injustement. Et au bout de 3 mois, on s'est rendu compte que finalement, il n'a rien fait. On l'a libéré sans un procès quelconque. Il faut contre-attaquer à nouveau. Puisqu'on ne lui reproche rien et on l'a séquestré pendant 3 mois, est-ce que nous allons laisser cette affaire tomber? Non.
Dobiang Assingar déclare par ailleurs que l'arrestation du commandant Manayel Najita rentre dans la catégorie des militaires qui ont été arrêtés et séquestrés après le scrutin présidentiel du 10 avril dernier.
Cette histoire n'est pas de la science-fiction. C'est une histoire réelle qui s'est passée malheureusement dans ce pays où plus d'une soixantaine de militaires ont été séquestrés, déportés et torturés sous prétexte qu'ils ont voté pour l'opposition. Nous avons ces plaintes qui sont là des dossiers bien constitués. Et si le pouvoir persiste, nous sortirons tout, y compris les témoignages audio, visuels, les plaintes et la liste de ceux qui ne sont pas encore revenus.
André Kodumadjingar Ndjamena pour VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Affaire des biens mal acquis en France, Théodorine Obiang, le fils du président de Guinée équatoriale, soupçonné de s'être frauduleusement bâti dans l'Hexagone un patrimoine de dizaines de millions d'euros, a été renvoyé devant un tribunal parisien, ouvrant la voie au premier procès français des biens mal acquis. Lionel Gaïma.
Promu fin juin vice-président de Guinée équatoriale par son père Théodoro Obiang Nguema, il sera jugé par le tribunal correctionnel de Paris pour blanchiment d'abus de biens sociaux, de détournement de fonds publics et d'abus de confiance et de corruption. L'instruction a permis d'établir que Théodorin Obiang a acquis en France entre 2007 et 2011, soit directement, soit par l'intermédiaire de prête-noms ou sociétés écrans, un patrimoine évalué à plusieurs dizaines de millions d'euros, relèvent les juges. Hôtel particulier de 4000 m² dans le 16e, robinet en or, Rolls-Royce, Bugatti, œuvres d'art de la collection Yves Saint-Laurent Pierre Berger ne sont que quelques exemples de la richesse d'Obiang fils. Ce patrimoine, constitué alors qu'il était ministre de l'Agriculture, provient de l'argent, de la corruption et des détournements de fonds publics dans son pays, estiment les juges, suivant les réquisitions du parquet national financier qui avait demandé en mai son renvoi devant un tribunal.
Au Nigeria, des combats opposent depuis plusieurs semaines deux factions rivales du groupe djihadiste Boko Haram, déchirées par une lutte pour le pouvoir, selon des témoignages d'habitants des zones où les combattants islamistes sont très actifs. Il y a un mois, le groupe État islamique auquel Boko Haram s'était affilié avait annoncé la nomination de nouveaux chefs pour le groupe nigérian en remplacement d'Abubakar Shekau, apparemment contesté pour son extrême violence. Mais Shekau avait immédiatement démenti son remplacement par cet homme de 22 ans, Abou Moussab al-Barnaoui, identifié par les experts comme le fils du fondateur historique de Boko Haram, Mohamed Youssouf, d'où les combats fratricides en cours. Moyen-Orient, guerre des mots entre l'Iran et l'Arabie Saoudite à trois jours du début du Hajj, le pèlerinage annuel à la Mecque, dont les Iraniens ont été exclus cette année. Nathalie Barge.
Mercredi, le guide suprême iranien Ali Khamenei a qualifié la famille royale saoudienne de maudite et maléfique qui ne mérite pas de gérer les lieux saints de l'islam, selon ses termes. La crise entre les deux pays s'est exacerbée avec leur incapacité de trouver un accord sur la participation des Iraniens au pèlerinage, un an après la mort de 2300 pèlerins, dont 450 Iraniens, dans une bousculade à Mina près de la Mecque. En mai dernier, Téhéran a accusé Riyad de sabotage et le royaume saoudien a jugé inacceptables les exigences iraniennes pour la participation de leurs ressortissants au pèlerinage. Leurs relations diplomatiques sont rompues depuis janvier à l'initiative de Riyad après l'attaque de son ambassade à Téhéran par des manifestants protestant contre l'exécution d'un dignitaire religieux chiite en Arabie saoudite.
Les États-Unis ont donné deux avions militaires aux Philippines pour aider l'archipel à renforcer ses patrouilles aériennes, annonce l'armée philippine. Décision prise dans un contexte de tension diplomatique avec Pékin en mer de Chine méridionale. Bagassi Kora.
Les deux Sherpa, qui étaient jusqu'alors au service des États-Unis, seront livrés à Manille en décembre, rapporte l'AFP, citant le porte-parole des gardes-côtes philippins, le commandant Armand Balilo. Cette annonce survient deux jours après le froid diplomatique jeté par le président philippin Rodrigo Duterte, qui a traité son homologue américain Barack Obama de fils de pute. Ce dernier a décidé en réponse d'annuler mardi sa rencontre bilatérale prévue avec le chef d'État philippin au sommet de l'Asie du Sud-Est au Laos. Duterte a tenté par la suite de s'excuser. Les Philippines, dont l'armée est l'une des plus faibles d'Asie, sont un allié militaire historique de Washington dans la région. En plein sommet de l'ASEAN, ce pays a rendu public aujourd'hui des photos attestant, selon les autorités philippines, d'un plan de construction secret de Pékin d'une île sur le récif de Scarborough, en mer de Chine méridionale, dans une zone revendiquée par Manille.
Merci pour votre attention. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Bonne soirée.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.